Alors, l'utopie, c'est toujours un sujet bizarre. C'est un sujet sur lequel j'ai consacré pas mal d'années. En fait, j'ai travaillé assez longuement sur l'histoire d'une utopie qui était donc les Saint-Simonistes, dont je reparlerai un petit peu plus loin. Et à la fois, c'est vrai que je suis assez peu utopique de nature, vous avez dû le constater, mais je trouve que l'utopie, c'est quelque chose d'intéressant, ça pose plein de questions intéressantes, notamment jusqu'à quel point ça sert de croire en quelque chose pour accomplir des choses intéressantes. Alors, la question de l'utopie, ça peut sembler étrange dans la mesure où vous avez une longue tradition de dénonciation du caractère irréaliste de l'utopie. Bon, souvent en politique, si quelqu'un vous dit c'est de l'utopie, tout ça, ça veut dire c'est irréalisable, vous perdez votre temps, etc., etc. Mais est-ce que l'utopie n'est que rêverie? Vous avez une autre tradition de pensée qui exalte au contraire la fécondité pratique de l'utopie. Et l'utopie, ça a passionné pas mal de gens. Les socialistes, en fait, il y a une espèce de généalogie entre les idées socialistes, les idéaux socialistes et les utopies. Par exemple, bon, Karl Marx a beau avoir qualifié ses devanciers de socialistes utopiques, il leur doit en fait pas mal de choses. Le marxisme, en fait, doit pas mal de choses au courant utopique de la première moitié du XIXe siècle. Ça a aussi intéressé les tenants du libéralisme économique, avec l'idée qu'être entrepreneur, c'est toujours être un peu utopiste, par un biais ou par un autre. Alors, c'est une question intéressante aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'inventeurs, j'en vous donnerai quelques exemples, qui avaient des côtés fortement utopiques. Donc comment à la fois, finalement, toute la sagacité qu'il faut pour inventer quelque chose et de pratique et l'utopie, ça peut faire bon ménage. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais d'abord essayer de clarifier ce que c'est que l'utopie, parce que bien sûr, ça vous dit vaguement quelque chose. Mais on va commencer par quelques considérations sur l'utopie, ça vient d'où, comment ça s'est développé, comment ça a évolué, etc. En partant très grosso modo de la Renaissance, mais on ira vite au départ, et en allant jusqu'au cœur du XXe siècle. Avec dans l'idée qu'il y a eu quand même des ruptures assez profondes entre ce qu'on a appelé utopie à certains moments et ce qu'on a appelé utopie à d'autres moments. Puis ensuite, je vais essayer, comme l'idée, c'est quand même d'en arriver à discuter de pourquoi l'utopie, ça peut servir pour inventer. Je vais commencer par parler du fait que l'utopie essaye d'inventer des mondes nouveaux. Donc ça va être un peu le point de départ. La première chose qu'invente l'utopie, et c'est peut-être pour ça qu'on en a quand même besoin aujourd'hui, c'est l'idée qu'il puisse y avoir des mondes très différents de celui dans lequel on vit actuellement. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles l'utopie a toujours planché depuis très longtemps. Avec des mondes, on verra, qui peuvent paraître très irréalistes au départ, mais qui ont souvent des liens plus étroits qu'on pourrait imaginer avec la réalité. Donc ça sera aussi quelque chose que je voudrais souligner. Ensuite, je vais essayer de réfléchir plus précisément sur les liens entre utopie et invention technique. Avec finalement deux idées. La première, c'est qu'il y a des liens entre utopie et technique, parce que l'utopie, pour être crédible, elle a en fait besoin souvent de s'enraciner dans les questions scientifiques et techniques. Et inversement, les inventeurs, inventer, c'est aussi quand même imaginer que le monde puisse être différent. Et du coup, l'utopie a à voir à faire à ça. Alors j'introduirai au passage aussi une notion assez compliquée sur laquelle j'ai beaucoup travaillé mais qui reste toujours compliquée à manipuler, qui est la notion d'imaginaire. Donc j'essaierai un petit peu de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut entendre par imaginaire, parce qu'en fait l'utopie et l'imaginaire, ça a des liens. Donc, et évidemment, l'invention et l'imaginaire, ça a aussi des liens. Et quelque part, il faut à un moment imaginer, entre guillemets, quelque chose de différent. Et puis je terminerai évidemment par où en est-on aujourd'hui. Donc je vais bien entendu, après la remarque que j'ai eue à midi, être d'un optimisme radieux. C'est vrai que j'y repensais. Bon, c'est vrai que je ne dois pas être d'un optimisme. Mais en fait, je suis assez optimiste. Je suis d'un optimisme mesuré, comme je disais à midi à un de vos camarades. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça va être un chemin pavé de roses. Mais c'est vrai que je ne crois pas forcément que tout va être aussi horrible que ce qu'on nous annonce souvent. Donc je suis d'un optimisme mesuré. Mais enfin, c'est vrai que ça passe par une petite dose de pessimisme par moment, mais rassurez-vous, comme c'est le dernier cours que je fais aux premières années, je vous promets ensuite d'arrêter de sévir et d'essayer de vous rendre malheureux. Bien. Donc on va essayer de faire un petit peu tout ça. J'espère, j'ai bon espoir qu'on termine quand même, bon, avant l'heure, comme c'est quand même le dernier cours. Mais enfin, on va voir hein, le temps que ça prend, parce qu'il y a deux, trois choses à voir. Alors l'utopie, qui a entendu parler de Thomas More? Bon, bah c'est pas si mal, je vois. Bah, faut dire, il y a les polycopiers en ligne. Mais bon, l'utopie, ça démarre comment? C'est un monsieur qui s'appelle Thomas More, homme d'État anglais de la Renaissance, qui invente ce terme. Alors il y aurait bien sûr, et ça c'est une question amplement, j'ai participé à la direction d'un dictionnaire des utopies il y a de longues années de ça, et évidemment une des questions qui surgit toujours, c'est y a-t-il de l'utopie avant que le terme utopie soit inventé, avant grosso modo la Renaissance européenne? Alors c'est très discuté. La République de Platon, à bien des égards, c'est une utopie politique. La cité de Dieu de Saint-Augustin, c'est une utopie politico-religieuse. Vous avez des utopies, des choses qu'on pourrait classer dans l'utopie dans des traditions non occidentales, etc. Mais pour simplifier, on va partir donc de Thomas More. En 1516, ce monsieur, donc homme d'État anglais, etc., publie un bouquin qui s'appelle « L'Utopia ». Donc voici les premières pages. Alors vous noterez l'Utopia, qui est en fait un récit où un voyageur raconte au narrateur qu'il revient d'un endroit très lointain, une île appelée Utopia, dans laquelle il a rencontré une société très intéressante, presque parfaite en son genre, mais avec des mœurs tout de même un peu déconcertantes. Et donc le récit tourne autour de comment s'est organisée la société utopienne, etc., etc. En première chose, l'utopie, c'est une île située loin de tout. Et évidemment, ça a des liens. Quand on parle à une île, en 1516, d'une île extrêmement loin de tout, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Amérique. Et en fait, l'utopie, j'y reviendrai, présente quand même des liens assez étroits, la naissance de ce récit, des récits utopiques, avec la découverte de l'Amérique, la découverte. Il faut voir quand même que pour l'Occident, notamment chrétien, c'était un espèce de grand choc parce que tout d'un coup, il découvrait un monde qui, a priori, n'avait aucune raison d'avoir jamais entendu parler de Jésus-Christ ou de Dieu sait quoi, ou de la tradition biblique. Donc c'était quoi le statut de ces êtres étranges? Ça a bouleversé beaucoup les cerveaux à la Renaissance. Donc l'utopie, c'est contemporain de la découverte de l'Amérique, c'est une île très loin, avec des mœurs tout à fait différentes, des mœurs européennes, etc. C'est aussi contemporain, à peu de choses près, de l'invention de l'imprimerie. J'y reviendrai également. Et vous noterez que Thomas More fait figurer un alphabet de sa composition qui est censé être l'alphabet des utopiens, de la langue utopienne, au début aussi du livre. Alors l'utopie, c'est une île qui a grosso modo la forme d'un croissant. Alors au cas où vous ayez des doutes, l'utopie n'est pas censée exister pour More. Utopia, c'est la négation en grec, et topia, le lieu. Donc c'est le lieu qui est nulle part, littéralement. Et au cas où vous n'ayez pas compris, comme quand même il s'adresse à des gens, c'est Utopie for the Dumb, donc sur l'île d'Utopie règne un prince Adem, qualifié d'Adem, Ademos, c'est-à-dire un prince sans peuple. En Utopie coule également un fleuve qualifié qui s'appelle l'Anhydre, donc un fleuve sans eau. Donc, vous voyez, c'est une île nulle part, dirigée par un prince sans peuple, avec où coule un fleuve sans eau. Donc, hey, it's a story. Donc, en fait, au départ, l'utopie, c'est un genre littéraire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, More, qui est un moraliste, plutôt, en fait, à travers ce récit utopique, ne présente pas l'utopie comme un projet destiné à être réalisé. Et ça va être une des grandes différences avec ce qui va se développer plus tard. C'est en fait plutôt une fiction critique pour nous raconter, finalement, pour attirer l'attention sur le fait que nos mœurs, nos coutumes, ces choses dont on croit être persuadé qu'elles sont enracinées dans la raison, etc., ben, elles ont des côtés arbitraires. Et donc, du coup, même si c'est un récit qui n'est pas destiné à être d'une société qui n'est pas destinée à servir de modèle, ça introduit la possibilité troublante que l'ordre des choses puisse être autre que ce qu'il est ordinairement. Donc, genre littéraire, l'utopie est au présent, elle n'est pas dans l'avenir. Le voyageur revient et dit « j'ai vu l'utopie », etc. Elle n'est pas dans le futur, elle est nulle part, mais au présent. Alors, Utopie, c'est un drôle de truc parce que c'est des récits. Alors ensuite vont se développer des tas de récits utopiques, plus ou moins fantaisistes. Il y en a qui sont franchement fantaisistes, par exemple. Bon, ça, c'est Thomas More. Alors, parmi les questions qui se posent d'emblée chez les utopiens, dans la littérature utopiste, c'est quel est le degré de sérieux de ces trucs? Thomas More, vous voyez, c'est pas franchement un rigolo, hein. C'est un homme d'État extrêmement sérieux, c'est un copain d'Erasme, grand humaniste, etc., etc. Donc, pourquoi il s'amuse à écrire ce truc qui a des aspects assez bizarres, s'amuser à inventer un petit alphabet et tout, espèce de côté un peu enfantin curieux, etc. Alors ensuite, l'utopie, ça va donner naissance à des tas de récits qui vont raconter des histoires de villes, d'îles, etc., situées ailleurs. Parfois même, on va situer ces utopies sur la Lune ou sur le Soleil. Par exemple, un monsieur qui s'appelle Godwin va écrire un voyage dans la Lune, « The Man in the Moon ». Alors vous voyez, c'est le premier vaisseau spatial, d'ailleurs, de l'histoire de l'Occident. C'est une série d'oies attachées à une espèce de trapèze. Et grâce à ça, le gars s'élève jusqu'aux états de la Lune qu'il visite. Alors Godwin, soit dit en passant, là aussi, on se dit quand même, c'est quand même un mec un peu bizarre. Quelle drôle d'idée. Le gars, c'est en fait là aussi pas un plaisantin, c'est un évêque. Donc pas quand même le mec le plus fun de la Terre, a priori. Et en fait, il va inspirer quelqu'un dont vous avez tous entendu parler, qui est Cyrano de Bergerac, qui va écrire un livre publié, une utopie qui s'appelle « Les États et Empires de la Lune » en 1657, donc en plein XVIIe siècle. Et il écrira également une description des mœurs des habitants du Soleil du même genre. Alors l'utopie, ça va continuer, il va y avoir des récits qui tous attirent l'attention sur le fait que les mœurs sociales ont des côtés arbitraires, qui pourraient en être autrement, etc. Le dernier, peut-être, grand récit utopique de la tradition occidentale avant la mutation de l'utopie, c'est Les voyages de Gulliver de Swift. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Les voyages de Gulliver parmi vous? Ouais, il y en a un bien. Grand livre de la littérature du XVIIIe siècle où Gulliver visite une série d'îles ou avec des choses toutes plus bizarres les unes que les autres. Il y en a une où il y a des géants, il y en a une où il y a des nains. Elles ont toutes en commun, d'ailleurs, d'être un peu ridicules. La seule utopie à peu près raisonnable, c'est les Yahoos, qui sont en fait des chevaux qui parlent. Et Swift fait une espèce de critique dévastatrice à la fois des sociétés humaines, mais aussi de leurs rêves d'imaginer autre chose. Et à la fin, Gulliver, quand il rentre chez lui, est tellement dégoûté par tout ce qu'il a vu qu'il veut même plus parler à sa femme et à ses enfants. Et il parle qu'à ses chevaux, qui ne sont pas aussi intelligents que les chevaux qu'il a rencontrés dans la seule utopie qui était raisonnable. Mais enfin, avec cette espèce finalement d'idée qu'il y a peu de choses raisonnables en ce bas monde. Alors la grande mutation de l'utopie maintenant, ça va être seconde moitié du XVIIIe siècle, au moment où commence à se dessiner l'idée de progrès. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de tout ça, l'idée que peut-être que la société est en mouvement, ce qui est plutôt neuf, toutes ces choses-là. Vous allez voir lentement une espèce de conversion de l'utopie en autre chose. Alors ça commence avec quelqu'un dont vous avez sans doute tous entendu parler parce qu'il a donné son nom à un lycée, Condorcet. Condorcet qui va en fait imaginer que la société humaine se dirige vers un état de félicité et de plus grande culture et de plus grande connaissance scientifique. Et il va appeler ça la Nouvelle Atlantide, en référence au récit de Platon sur l'Atlantide, mais surtout à une autre Nouvelle Atlantide du XVIIe, dont je parlerai dans un moment, qui est celle de Francis Bacon. Et en fait, Condorcet va introduire l'idée qu'en fait, l'utopie, eh ben, elle est peut-être dans le futur. Alors, autre mutation, progressivement, l'utopie était un genre littéraire, elle va devenir synonyme de mouvement social. Et vous allez avoir, et c'est ce que j'ai étudié pendant de longues années de mon existence, on a parfois des activités bizarres, vous allez avoir des mouvements utopiques dans la première moitié du XIXe siècle. En France, par exemple, vous aurez les Saint-Simoniens, ça c'est une cérémonie saint-simonienne, qui draine des milliers de gens, d'un peu tous les milieux. Chez les Saint-Simoniens, vous avez plein d'ingénieurs, des polytechniciens, plein d'ingénieurs des ponts, etc. C'est pour ça que je m'y étais intéressé au départ. Mais vous avez aussi des ouvriers, des juristes, des médecins, etc., etc. Vous allez avoir les Icariens, c'est la première utopie communiste qui imagine en fait l'abolition de la propriété. Vous allez avoir les fouriéristes, dont je reparlerai, qui imaginent de grouper l'humanité dans des communautés idéales qu'ils appellent des phalanstères. Donc toute une floraison d'utopie. Avec un grand changement, l'utopie était nulle part. Elle va devenir synonyme de quelque chose qui est appelé à régner partout, donc qui devient universel. Ça devient un message universel. Mais simplement qu'au lieu d'être au présent, elle est dans le futur. Donc vous passez d'une utopie qui est au présent et nulle part à une utopie qui est au futur, mais partout. D'autre part, ça devient plus qu'un genre littéraire, on passe à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de dynamique sociale, c'est-à-dire vous avez des mouvements utopiques qui se créent qui vont avoir une certaine influence. Avec des endroits, par exemple, la première moitié du 19e siècle, c'est une caricature de la foire aux utopies, de la première moitié du 19e siècle. En fait, tous ces trucs-là existent. Par exemple, ça, c'est Fourier, dont je reparlerai dans un instant, avait quand même des côtés assez baroques. Donc il imaginait que lorsque l'harmonie, ce qui est l'utopie qu'il annonce, régnerait sur Terre, la Terre s'inclinerait sur son axe et donc un printemps perpétuel régnerait et des queues de singes pousseraient aux hommes et aux femmes qui pourraient se promener librement d'arbre en arbre dans une Terre devenue un grand jardin. Donc, vous voyez, c'est quand même assez délirant. Ça va être expurgé par la suite. On va aussi expurger, parce que si vous avez la curiosité, regardez, Fourier a écrit aussi un traité sur la sexualité de l'avenir, qui s'appelle « Le nouveau monde amoureux », que ses disciples se sont empressés de faire oublier. Parce que il imagine tous les types de rapports possibles. Fourier était un maniaco-dépressif obsédé par les combinaisons. Donc vous avez l'amour à 2, l'amour à 4, l'amour à 8, l'amour à 16. C'est extrêmement créatif. Et le nouveau monde amoureux, ça va être republié en fait en 1968, en plein milieu des côtés hippies, babacool, etc., etc. Bien. Avançons un peu. Alors ça va laisser des traces, cette idée-là, cette idée d'utopie dans le futur, etc. Par exemple, ça, c'est un tableau de Signac, le peintre Signac, et ça s'appelle « Autant d'harmonie ». Et vous voyez des hommes et des femmes qui ne travaillent plus. Ça aussi, l'une des grands thèmes de l'utopie, ça va être l'émancipation du travail abrutissant tel qu'il commence à se développer à l'aube de la révolution industrielle et qui se promène dans une terre qui semble être devenue un grand jardin. Donc des rêves qui ne vont plus complètement quitter l'humanité jusqu'à aujourd'hui. D'une certaine façon, il y a dans l'écologie aujourd'hui, il faut quand même le dire, la réactualisation d'idées un peu de ce genre. Enfin, sauf qu'on bosse quand même pour cultiver les salades, mais il y a quand même la réactualisation de ce désir, cette promesse d'une terre rendue à une condition de jardin qui va hanter les consciences jusqu'à aujourd'hui. Alors du coup, ce nouveau registre va introduire toute une série d'ambiguïtés dans la définition de l'utopie. Première ambiguïté qui était présente quand on essaye de faire la préhistoire de l'utopie, on rencontre très vite la question des religions. Vous avez des mouvements sectaires au XVIIe siècle. Est-ce que c'est des utopies ou pas? Les Hasidim, les mouvements juifs religieux de Pologne, dans quelle mesure qui essayent de créer une nouvelle société en même temps qu'ils essayent de rénover le judaïsme, est-ce que c'est des utopies ou est-ce que c'est simplement des mouvements religieux? Au 19e, ça va se reposer, par exemple, avec les Shakers. Les Shakers, c'est une secte qui est d'origine anglaise, to shake, c'est trembler, parce qu'ils étaient saisis lorsqu'ils avaient de convulsions, lorsqu'ils se sentaient en présence du divin. Et c'est une secte qui va avoir, et très étonnante, les Shakers, qui va avoir une très grande postérité aux États-Unis. Il va y avoir sur la côte Est toute une série de villages Shakers. Sur la gauche, c'est un village Shaker dont les bâtiments ont été conservés dans le New Hampshire, qui s'appelle Canterbury, comme la ville en Angleterre. Des bâtiments très dépouillés. Les Shakers vont beaucoup marquer les esprits parce qu'ils ont des meubles extraordinaires, très dépouillés, très beaux, etc. Alors, ils avaient des mœurs très particulières. Ils étaient censés ne pas coucher ensemble. Donc, ils ne faisaient pas d'enfants. Ils adoptaient des enfants. Et en fait, alors, avec ce système étrange, mine de rien, les Shakers, les derniers Shakers, ont vécu dans les années 60 aux États-Unis. Et par contre, ils dansaient beaucoup. Il y avait tout un rituel avec l'idée de la danse capturait quelque chose du divin. Et en fait, assez curieusement, on se rend compte dans les manuels, même dans la très austère église catholique du nord de Boston, vous avez, enfin austère lorsqu'il ne s'amuse pas à être pédophile, vous avez dans les manuels de l'église des chants qui viennent en fait des Shakers, parce que les Shakers ont beaucoup écrit de musique religieuse, avec justement des rythmes très dansants, etc. Donc un exemple. Un autre exemple que vous connaissez plus que les Shakers, c'est les Mormons. Les Mormons, au départ, en fait, est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est une utopie, est-ce que... Eh ben, en fait, c'est les deux. Et les Mormons, par exemple, font des plans de ville idéale. Il y a en fait des espèces de plans des cités mormons au XIXe siècle, et en fait le mouvement mormon veut refonder la société en même temps qu'il veut créer une nouvelle religion. Donc évidemment, l'utopie religion, c'est un sujet compliqué. Autre sujet compliqué, l'utopie est politique. Parmi les gens qui vont se réclamer très fortement de l'héritage utopique, vous avez les socialistes. Si vous réfléchissez, un état de félicité dans le futur régnant partout sur la planète, ça ressemble beaucoup à l'avènement du socialisme, ou plus tard du communisme, tel que vont l'annoncer tous les grands prophètes, finalement, de la gauche européenne et mondiale. Et en fait, cette revendication va être très consciemment endossé d'abord par Marx lui-même, qui va quand même reconnaître qu'il doit quelque chose à Saint-Simon, à Fourier, etc. Et puis ensuite par les communistes, c'est-à-dire l'URSS, par exemple, après la France, c'est la plus grande collection de documents saint-simoniens et fourieristes et positivistes du XIXe siècle. Ils vont collectionner ça. Et en fait, le terme socialiste, ça, c'est une affiche, évidemment, des débuts du communisme. 1931, l'URSS est la brigade choc du prolétariat moderne. Et en fait, il va y avoir des traces de ça tout au long de la saga communiste. Évidemment, ça se terminera mal, on le sait, mais ça va rester pendant longtemps. Oui, vous avez au premier plan, comme par hasard, le petit père des pleufs, vous avez Joseph Staline, on est en 31, vous avez aussi Lénine et tous les autres. Ensuite, alors, autre chose à noter, je vous parlais des Saint-Simoniens. En fait, le terme socialiste a été inventé par un ancien Saint-Simonien, Pierre Leroux, qui est le premier à se dire socialiste dans les années 1830. Donc en fait, il y a vraiment une généalogie. Mais là où ça se complique, c'est qu'en fait, vous avez dans la descendance de pas mal de courants utopiques, et notamment du saint-simonisme, aussi des capitalistes. Les Rothschild font partie des gens qui financent le mouvement saint-simonien. Et vous allez avoir chez les saint-simoniens des grands capitaines d'industrie, etc. Et vous allez trouver chez les saint-simoniens, par exemple, des fondateurs de chemin de fer, ce qui est aujourd'hui devenu la ligne, le Paris-Saint-Germain, est en fait une ligne au départ créée par des ingénieurs et des banquiers saint-simoniens. Les frères Perrer, qui ont financé la reconstruction de Paris sous Haussmann, étaient des saint-simoniens même enragés dans leur jeunesse. Donc vous avez toute une généalogie d'une frange du capitalisme qui vient en fait des mouvements utopiques du début du XIXe siècle. Vous avez plus généralement dans le capitalisme des choses qui rappellent la pensée utopique. Pierre Rosanvallon a notamment écrit un bouquin il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, qui traitait un peu de ces questions-là, en présentant l'idéologie économique, à commencer par chez Adam Smith. Il y a des aspects utopiques dans la pensée d'Adam Smith et de ses successeurs. La main invisible du marché, c'est quand même une notion qui tient plus de l'utopie que de la réalité constatée. C'est plus compliqué, disons, la relation entre utopie et courant politique et économique, elle est assez complexe et pas inintéressante. Alors ensuite, ça va se compliquer encore, parce que j'ai laissé les utopies vers 1830, tout ça, on voit à peu près ce que c'est. Ensuite, vous allez avoir de nouveaux registres de l'utopie. Par exemple, vous allez avoir, vers la fin du 19e, les gens, notamment en Angleterre, qui vont inventer des utopies où on revient en arrière. Un gars qui s'appelle William Morris, qui est le fondateur d'un courant artistique extrêmement influent qui s'appelle les Arts and Crafts. En fait, William Morris va écrire un roman d'anticipation qui s'appelle News from Nowhere. Et d'ailleurs, c'est un jeu Nowhere sur Utopia. le truc qui est nulle part. Mais le nowhere, en fait, c'est l'Angleterre, sauf c'est une Angleterre qui est revenue à un état industriel, ou comme on dirait aujourd'hui, post-industriel, c'est-à-dire elle a abandonné les trois quarts du machinisme pour retrouver une qualité de vie qui est beaucoup plus propice au développement humain. Alors là aussi, ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est que News from Nowhere, ça pourrait être un roman, finalement, sur le retour au local, à l'agriculture, etc., qui agite pas mal de gens très critiques face au capitalisme mondialisé actuel. Et en fait, donc, cette espèce d'idée... Alors vous voyez, d'ailleurs, il y a une espèce de cottage. Comme c'est un artiste, il illustre News from Nowhere, l'édition originale est somptueusement illustrée. Et en fait, elle vous parle d'une époque post-industrielle, le futur, mais qui est une forme de retour en arrière. Alors, ensuite, vous avez à voir au XXe siècle le développement, cette fois, de l'utopie « dark mood », l'utopie négative. L'avenir, c'est différent, mais alors c'est franchement bien pire que le présent. Alors, le premier qui invente ça, c'est en fait un Russe, Zamyatin, qui va écrire au lendemain de la victoire des communistes, un roman qui s'appelle « Nous autres », dans lequel il commence à dénoncer, finalement, l'idée d'une société tellement bien organisée qu'elle commence à ressembler à un cauchemar. « Nous autres », c'est 1920. En fait, c'est la première grande contre-utopie du XXe siècle, qui d'ailleurs coupe l'utopie et le totalitarisme. Et ça, ça va devenir de plus en plus un truc. Il y en a qui ont lu « Brave New World », voilà, dans Brave New World, ah, ça, c'est une pochette du disque, en fait, où Aldous Huxley lui-même lit son roman. Mais Huxley, qui est en fait le frère d'un éminent biologiste de l'entre-deux-guerres, Julian Huxley, donc il décrit un univers très contrôlé, un univers dans lequel l'eugénisme règne en maître. Il décrit finalement un univers dans lequel ce monde merveilleux, on découvre progressivement qu'il a des aspects absolument cauchemardesques. Évidemment, l'utopie la plus célèbre de ce point de vue, c'est 1984 d'Orwell. 1984 d'Orwell, qui malheureusement ressemble à bien des égards à des tas de réalités qui vont exister au cours du XXe siècle, avec du coup d'ailleurs les liens entre utopie et totalitarisme qui vont se poser. La révolution cambodgienne de Pol Pot, c'est un génocide et c'est en même temps une utopie. Une utopie totalitaire, d'ailleurs du retour à la Terre, et aux fondations de l'identité khmer, vous allez avoir bien d'autres utopies au XXe siècle, dont certaines sont assez terrifiantes. Pour parler de choses récentes, bon, ben, Daesh avait aussi des côtés utopiques, très clairement, même si là aussi, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, il y a des aspects quand même assez cauchemardesques dans toute cette histoire, et on se rend compte que finalement, tout le XXe siècle va être traversé aussi par cette ambiguïté. Alors allons plus loin. Évidemment, l'utopie, du coup, ça a des liens avec la question de la science-fiction. Et la science-fiction est assez directement liée à la floraison des récits utopiques et contre-utopiques. Et il ne vous a pas échappé que souvent la science-fiction est en général meilleure quand elle décrit un avenir qui ressemble à un cauchemar. Blade Runner, c'est beaucoup plus intéressant que des fictions happy-happy. Et en fait, vous rendez compte que vous noterez d'ailleurs, je vais y revenir, le rôle que joue la technologie en général dans la science-fiction, c'est pas complètement un hasard. Ça a des liens avec le rôle, l'intérêt des utopies pour la technologie. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Le cinéma est peuplé de contre-utopies. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Truffaut, Fahrenheit 451, c'est une contre-utopie. Vous prenez évidemment Blade Runner et bien d'autres. Qui sont des contre-utopies. Du coup, l'utopie au XXe siècle, ça va devenir un sujet un peu chargé, parce que ça va évoquer des choses extrêmement contradictoires. L'utopie, on va souvent l'associer au risque totalitaire. Une société trop bien organisée, c'est comme une prison. Et d'ailleurs, on se rend compte progressivement qu'une société trop bien organisée, c'est forcément un cauchemar éveillé. Avec des trucs, il y a des trucs parfois, entre guillemets, burlesques. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ces films déjà anciens, Soleil Vert. où ils imaginent une humanité totale, une planète totalement surpeuplée, et la seule façon de nourrir les humains, c'est de générer une espèce de pasta à partir des cadavres des humains dont on dispose. Donc vous voyez, une espèce de truc. Soit dit en passant, c'est ce qu'on fait souvent pour l'élevage animal. Donc, ou quand même, souvent, on nourrit les bêtes avec ce qui reste, etc. Donc, et vous rendez compte qu'en fait, ces utopies, elles posent des problèmes qui ne sont pas forcément idiots. Bien. Mais l'utopie, c'est pas que ça. L'utopie, par exemple, ça, en 68, je vous ai parlé de 68 une ou deux fois, ça va être les communautés alternatives qui vont fleurir dans tous les sens, les hippies, etc., qui vont réinventer finalement toute une série de classiques de l'utopie, comme l'utopie de la communauté, une chose très importante aux États-Unis, etc., etc. Et puis, aujourd'hui, on pourrait dire, et je vais y revenir, peut-être qu'il y a un espèce de grand retour d'un désir utopique, parce qu'on est dans un monde qui paraît quand même assez glauque à certains égards. Du coup, on se dit, comment essayer de rompre avec le cycle finalement un peu maudit de la crise climatique, de l'inégalité sociale, etc. Sauf qu'il y a juste un problème, c'est que les utopies traditionnelles étaient plutôt fondées sur le collectif au détriment de l'individuel. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie à l'heure de l'individu triomphant? J'ai pas mal insisté dans ce cours sur la montée en puissance de l'individu. Il y en a qui ont vu le Truman Show parmi vous? Le Truman Show, voilà. Bon, ben, le Truman Show, ça pourrait être finalement assez symptomatique des difficultés d'inventer de l'utopie, parce qu'au début, ça ressemble à une utopie. C'est parfait. D'ailleurs, c'est d'ailleurs réalisé dans une ville expérimentale américaine, qui est une ville manifeste de ce qu'on appelle le New Urbanism, qui se voulait une rupture avec l'architecture des tours et des bars, etc. Et en fait, vous rendez compte que c'est jamais qu'un show télévisé. Vous voyez, la désillusion est totale. Est-ce qu'on peut encore être utopique à l'heure de l'individu triomphant? C'est une des questions qui se posent dans l'utopie. Bon, on va s'arrêter là, sur cette première partie. Quelques éléments de réflexion pour boucler le truc. La première, c'est qu'on peut approcher l'utopie et la contre-utopie, qui est quand même sa sœur, sa jumelle, et puis la partie un peu noire de l'affaire, de plusieurs façons. La première, c'est de se dire que l'utopie, ça sert à déstabiliser le présent. C'est-à-dire l'utopie, les penseurs utopiques, c'est des gens qui vous disent « Vous croyez qu'il en a toujours été ainsi et qu'il n'y a pas moyen d'échapper ?» Eh ben non, on peut penser différemment. De ce point de vue, c'est pour ça que le socialisme a toujours eu des racines utopiques. Parce que en général, quand même, quand vous regardez l'histoire humaine, l'avidité au gain, ça a quand même plutôt été une caractéristique de l'humanité. Et puis vous avez des gens qui sont arrivés, surtout à partir du 19e siècle, les premiers utopistes, ensuite Karl Marx, les socialistes, etc., qui ont dit « pas du tout ». En fait, on peut très bien imaginer une société où les hommes et les femmes abandonnent l'appât du gain et sont motivés par autre chose. Et aujourd'hui, les anticapitalistes, c'est une question à laquelle ils doivent répondre, parce qu'évidemment, le capitaliste moyen, il leur dit « Bon, les gars, regardez quand même, les gens, ils veulent s'enrichir, ils veulent s'en mettre plein les fouilles, etc. Donc, qu'est-ce que vous nous racontez ?» Et un anticapitaliste, par définition, c'est quelqu'un qui dit « Non, non, on peut imaginer un monde différent, un monde dans lequel tout le monde ne cherche pas à s'enrichir à tout prix, etc. » Donc, ça sert à ça, l'utopie. Du coup, l'utopie, d'ailleurs, c'est symétrique d'un terme dont j'ai pas encore parlé, qui, lui, vient plutôt renforcer ce qui existe, qui est l'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'idéologie? C'est quand vous êtes dans une société, c'est les discours qui vous disent « tout est très bien comme c'est, il n'y a pas de raison de ne pas persister, parce que de tout temps les hommes, où on voit bien que ça marche, etc. » Alors l'idéologie, le capitalisme est aussi une idéologie, c'est-à-dire que on peut pas faire autrement, etc. Le communisme, qui se voulait une utopie, s'est transformé à partir d'un certain moment en idéologie, du genre, on voit bien que le communisme, c'est inévitable, c'est l'avenir de l'humanité, etc. Et faites pas chier les gars à vouloir imaginer autre chose, etc., etc. Et vous vous rendez compte que, bon, utopie, l'utopie déstabilise l'existant, l'idéologie tend au contraire à le restabiliser. Mais évidemment, un peu comme utopie et contre-utopie, c'est des sœurs jumelles, ce qui explique qu'en fait, le premier penseur, il y a un gars qui s'appelle Karl Mannheim qui, dans les années 20, écrit un texte qui s'appelle « Idéologie et utopie ». Et plus récemment, le philosophe dont se réclame notre honorable président Paul Ricoeur, en fait, a écrit aussi, a fait un cours et a écrit un livre qui s'appelle « Idéologie et utopie ». Alors, on peut y voir aussi autre chose. Un philosophe qui s'appelle Ernst Bloch, il a écrit un très épais traité qui s'appelle « Le principe espérance »,« Principle Hope », et qui, en fait, disait finalement l'utopie, et je reviendrai là-dessus, l'utopie, bon, elle parle du futur, mais en fait, elle n'est pas à propos de ça, au fond, elle est à propos de l'espoir. Et là où je ne suis pas pessimiste, ben, en dépit de mes noirceurs, c'est que je crois profondément en l'espoir. Je pense qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas quand même, au milieu de toutes les désillusions, au milieu de toutes les crises, etc., une petite flamme en vous qui vous dit « ça va s'améliorer, il y a de l'espoir, les choses vont changer, etc. » Et l'utopie, ça sert à entretenir cette flamme-là. Et pour Bloch, l'utopie, ça raconte des trucs sur le futur, mais en fait, c'est pas à propos du futur. C'est à propos de la capacité qu'a le présent à engendrer quelque chose qui puisse être excitant, etc. Qui est quand même l'idée de substituer aux vicissitudes de la société qui m'émerdouille. Bon, regardez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ce matin, 1h30 à la station Châtelet, par votre serviteur. Là, vous avez le temps de méditer sur les vicissitudes de l'existence humaine. Du coup, vous prenez à rêver d'une société peuplée de métros automatisés, avec tout le monde happy, âge pivot à 27 ans, etc., etc. Et ensuite, on va tous s'éclater à la pêche ou en écoutant du Mozart. Avec l'idée finalement que l'utopie va essayer de substituer aux vicissitudes de l'histoire des hommes, aux ces désordres, aux désordres politiques et sociaux, un ordre harmonieux, une stabilisation de la société. Et donc, un gars qui pense ça, c'est justement mon fameux... ça c'était juste à propos de l'écologie, dire que l'écologie, c'est en fait une des choses qui aujourd'hui essaye de réconcilier l'individuel et le collectif. Ça, c'était une copine à moi. Bon, je vous rassure, pas une copine, mais c'est une écologiste radicale. C'est ma seule copine écologiste absolument radicale, mais vraiment très, très radicale. Du genre, elle met pas des chaussures en cuir, etc. Et là, elle avait fait un post sur Facebook pour ne pas tirer la chasse d'eau. Ah oui, il faut pas gaspiller de l'eau. Et donc, elle expliquait très longuement qu'elle tirait pas la chasse, qu'il y a un truc, qu'il fallait pas tirer les chasses d'eau. Alors, ça a été repris par Trump. Je sais pas si vous avez remarqué, il veut pas non plus qu'on tire les chasses d'eau. Mais, donc, espèce d'utopie individuelle. Revenons à les moutons. Saint-Simon, c'est un des premiers qui dit ça. Finalement, il a une formule restée célèbre où il dit, il faut substituer à la politique des hommes l'administration des choses. Un ordre qui serait un ordre objectif des choses, et pas un ordre subjectif des désordres de la psyché humaine. Et donc, c'est un peu ça. Alors, l'utopie, du coup, va essayer d'inventer des mondes nouveaux. Et on va progressivement aller vers ce thème de l'invention. Inventer des mondes nouveaux qui possèdent parfois des aspects extrêmement improbables. Par exemple, les fourriéristes, à la suite de Fourier. Fourier, quand même, alors lui, c'était quand même un gars légèrement psychotique, Charles Fourier. Pas confondre avec le Fourier des séries de Fourier. Rien à voir. Joseph, là, c'est Charles Fourier. Il imagine, par exemple, des mondes interplanétaires peuplés de créatures assez étranges. Ça, vous avez les habitants de la Lune et du Soleil. Pourquoi pas? C'est lui aussi qui imagine que les hommes et les femmes vont avoir des queues qui vont leur pousser lors de la... d'harmonie, ce qui va être assez sympa parce que ça va améliorer la locomotion. Au lieu d'essayer de faire du vélo en cas de grève, vous déplacez d'arbre en arbre. C'est assez commode, etc., etc. Chut. Mais les fourriéristes, en fait, ils parlent de tas de choses parfois intéressantes. Alors, il faut se méfier, et c'est de ça dont je voudrais insister, c'est qu'en général, les trucs qui paraissent délirants, il y a des liens avec des choses qui sont très très présentes quand même, et il y a des liens parfois compliqués entre l'utopie, même lorsqu'elle délire sur l'avenir, et l'actualité. Prenez par exemple le truc le plus bizarre de Thomas More. Thomas More, c'est vraiment un catho pas drôle, très moral, etc. Son île d'utopie, les gens ont des tas de mœurs bizarres. Par exemple, il imagine qu'on va présenter les mariés tout nus l'un à l'autre avec une espèce de côté quasiment eugéniste, c'est quasiment du couple à l'essai, etc. On se demande d'où ça vient, ce truc. Alors évidemment, c'est pas censé être réalisé. En fait, ça vient de quoi? Ça vient d'un truc qui sidère les Européens. Aujourd'hui, on a perdu ça. C'est la nudité des Indiens. Enfin, des Indiens d'Amérique, Native Americans, if you like, la nudité. Et du coup, d'ailleurs, un truc qui va beaucoup frapper les Européens, c'est qu'en fait, ils vont les trouver beaux, ces Indiens. Et du coup, vous avez sur la gauche une gravure qui est de la Renaissance, où vous noterez une chose, les Indiens, ils sont assez nobles et majestueux, avec leurs petites culottes de plumes et leur petite coiffure, etc. Mais à la fois, ils sont effrayants. Vous noterez que ce qui est suspendu dans la rôtisserie, c'est des membres humains. Et oui, oui, en fait, ils font cuire des jambes, des cuisseaux divers. Ils sont anthropophages. Et en fait, il y a une espèce de fascination, répulsion pour ces gens complètement différents. Et l'utopie, en fait, elle est liée à ça, à la Renaissance. Une espèce de fascination, répulsion pour ce qui pourrait être complètement différent. Alors, les utopistes, en fait, ils vont être très souvent complètement immergés dans l'actualité. Les fourriéristes, c'est pas uniquement ça. Les fourriéristes, bon, ça, en fait, il y en a beaucoup que ça intéresse pas, parce que c'est les délires du père fondateur. Mais par contre, ils publient un journal qui s'appelle La Phalange, où vous trouvez évidemment toujours le phalanstère, cette communauté idéale qui serait une espèce de bizarre croisement entre un village et le palais de Versailles. Et en fait, les fourriéristes vont agiter des tas de thèmes qui intéressent les gens du 19e siècle. Je vais y revenir. Par exemple, le logement collectif doit quelque chose aux réflexions des fourriéristes. Alors vous avez des trucs encore plus étonnants. Les Saint-Simoniens ont des idées complètement baroques, du genre, par exemple, les femmes pourraient être les égaux des hommes. C'est quand même une idée, vers 1830, quasiment monstrueuse. Alors du coup, d'ailleurs, les Saint-Simoniens se font caricaturer. Ça, vous avez une caricature dans un journal de l'époque saint-simonienne, de la femme saint-simonienne. Vous voyez, elle a un gourdin, et elle est censée être libre, et donc elle va tabasser son mari, etc., etc. En fait, les Saint-Simoniens sont les avocats, alors c'est pareil, complètement fantasmatique, ils sont les avocats, de la liberté sexuelle des femmes. Les hommes, l'Église l'autorisait pas, mais c'était quand même tout à fait autorisé en pratique. Les femmes, c'était quand même plus compliqué. Donc non, liberté sexuelle pour les femmes. Droit d'hériter, au même titre que les hommes. Enfin, des tas de choses extrêmement étranges, mais qui vont quand même... Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver dans les premiers mouvements féministes? Eh bien, en général, des femmes qui sont passées par les mouvements utopistes des années 1830. Et lorsque, pour la première fois, les femmes vont demander le droit de vote, ce qui paraît invraisemblable en 1848, ce qui leur sera, je vous rassure, messieurs, refusé... Eh bien, en fait, derrière ce mouvement parfaitement incongru, eh bien, vous aurez d'anciennes saint-simoniennes et fourriéristes qui auront milité pendant des décennies pour ça. Là aussi, quand même, il est bon de se rappeler que le droit de vote pour les femmes en France, il est quand même du milieu du XXe siècle. Donc le Moyen-Âge n'est il n'y a pas si longtemps. Et il aura fallu quand même presque un siècle d'utopie pour en arriver à cette réalisation. Bien. Alors autre chose, par exemple... Une utopie qui est fondée par un Anglais qui s'appelle Richard Owen s'intéresse à l'éducation. Et alors, par exemple, parmi les idées baroques qu'ils ont, c'est que ça sert à rien de taper sur les mômes. Il faut leur faire faire des choses qui soient plutôt stimulantes, leur faire faire des jeux, leur faire découvrir, etc. En fait, toutes les bases de la pédagogie moderne de l'enfant est lié au courant utopique de la première moitié du XIXe siècle, qui vont tout d'un coup découvrir. Et Fourier, justement, est un gars assez amusant, parce que il était un peu psychotique, comme je le disais, mais c'est quelqu'un qui comprend assez bien la mentalité enfantine, et donc il a toute une série d'idées en matière d'éducation des enfants, lui aussi assez novatrice pour l'époque. Donc tout ça pour dire que l'utopie invente des mondes qui peuvent paraître par moments improbables, mais qui en fait ont des liens avec la réalité, et vont non seulement des liens avec la réalité, mais vont contribuer plus ou moins rapidement à la transformer. Et c'est quelque chose d'important à noter. Alors maintenant, et on va se rapprocher de plus en plus des sciences et des techniques, il y a deux domaines où l'utopie va faire des propositions plus précises encore qu'ailleurs. Le premier, c'est celui de l'organisation sociale et productive. Les utopistes vont avoir des tas d'idées sur la façon d'organiser la société. notamment avec, par exemple, cette idée dont je vous ai déjà parlé, cette idée que la société, il ne faut pas la penser autrement que comme une série de réseaux. Ça, c'est typiquement une idée d'utopiste du XIXe siècle. Et en fait, la société en réseau, avant que les sociologues, etc., s'en emparent, c'est une idée des utopistes. Et d'ailleurs, avec l'idée qu'à une société de classe, il faudrait substituer une société de réseau. Des idées qu'on croit très contemporaines de l'Internet, mais en fait, elles ont presque deux siècles. Elles datent de ces utopistes des années 1820-1830. Autre idée, par exemple, alors très proto-capitaliste, que la coordination des activités économiques devrait être confiée aux banques. Et là, curieusement, je vous ai dit que les Rothschild finançaient les Saint-Simoniens. Un autre financeur des Saint-Simoniens, c'est un monsieur qui s'appelle Lafitte, qui est un des premiers grands banquiers de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. En fait, c'est une idée saint-simonienne. Et les Saint-Simoniens et les anciens Saint-Simoniens vont être très présents dans les banques. La Société Générale est en fait une création d'anciens Saint-Simoniens, par exemple. Donc vous vous rendez compte que des idées comme ça, la coordination par le crédit, c'est une idée qui vient de l'utopie. Ça, Enfantin a une autre idée, par exemple, qui est ce qu'il appelle le crédit intellectuel. On pourrait dire, c'est l'ancêtre des idées de business angel. Vous rencontrez quelqu'un qui a des promesses intellectuelles, etc., vous le financez, et votre retour sur investissement, c'est une partie de la valeur qu'il aura créée. Donc, vous voyez, des idées, ça, c'est pas la Silicon Valley en 1990, c'est le crédit intellectuel d'Enfantin 1860. Vous vous rendez compte que beaucoup d'idées comme ça sont très présentes. Du coup, on a fait des utopistes, des ancêtres aussi de la bureaucratisation du monde, avec cette espèce d'idée, finalement, quand Saint-Simon dit l'administration du monde, la montée en puissance de l'idée d'administrer, c'est une idée qui doit des choses à l'utopie. Du coup, un mouvement dont je vous ai déjà parlé, les technocrates, de l'entre-deux-guerres, qui est un mouvement d'ingénieurs principalement, c'est un mouvement utopiste. Les ingénieurs, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les ingénieurs sont en général du gibier pour l'utopie. Pourquoi c'est du gibier pour l'utopie? Parce que l'ingénieur, en général, j'imaginais un mec un peu psychorigide. C'est en général la caractéristique, hein, prenez par rapport au gars d'HEC, ou Dieu sait quoi, dans les écoles de commerce, vous apprenez tout de suite que tout est négociable. Vous, on vous a fait faire tellement de maths, vous avez des difficultés de penser qu'on puisse négocier le 17 epsilon sur 33 qui sert de majorant ou de minorant à la série. Donc vous avez ce côté, c'est 17 epsilon sur 33 et c'est tout, etc. Donc une espèce de côté psychorigide. Du coup, je dirais l'idée d'une société tellement bien organisée que ça fonctionne comme une usine ou une vaste bureaucratie, ça plaît bien aux ingénieurs en général. L'idée qu'il faut négocier perpétuellement avec la CGT, avec Martinez, avec ses moustaches, tout ça, Burke. L'ingénieur, il préférerait aller craquer le métro, il est automatisé, on n'en parle plus, et Martinez va balayer les chiottes ailleurs. Ça, c'est un peu la conception de la négociation version ingénieur. Ça marche pas toujours, faut être honnête. C'est pour ça que la plupart du temps, que ça soit à la SNCF ou ailleurs, quand on a laissé négocier les ingénieurs assez longtemps, on amène d'autres gens pour essayer de renouveler un peu le discours. Et en fait, l'ingénieur, pourquoi il est comme ça? Parce que il aime bien les machines. Du coup, il a un peu tendance à se dire qu'une société qui fonctionnerait comme une usine ou une machine, ça serait mieux. Et puis d'autre part, une vieille idée qui date de Taylor, souvenez-vous, l'ingénieur comme médiateur entre le capital et le travail. L'ingénieur, c'est le mec qui va sauver la situation parce qu'il va proposer des méthodes d'organisation différentes, etc. Là aussi, ça marche pas en pratique. Mais du coup, c'est pour ça que l'une des raisons pour lesquelles j'ai étudié les Saint-Simoniens, encore une fois, c'est que c'est bourré d'ingénieurs. Il y a un moment, vous avez quasiment un tiers des polytechniciens qui sont au contact dans les archives du Saint-Simonie. Vous avez un épais registre de toute la correspondance des Saint-Simoniens, ingénieurs ou pas, avec les ingénieurs partout. Et vous avez... ça a un succès phénoménal parce que l'idée finalement d'une organisation totale de la société, ça plaît beaucoup aux ingénieurs, etc. Donc ça, c'est un domaine dans lequel vous allez trouver pas mal d'utopistes, etc. y compris parfois dans des côtés un peu terrifiants, c'est-à-dire les gens comme Pol Pot, j'ai mentionné le génocide cambodgien, c'était des gars qui avaient une formation scientifique. La formation scientifique est en général une mauvaise formation pour apprendre à négocier. C'est comme ça. Hein. C'est pour ça que je vous fais ces cours youpi youplala, c'est parce que va falloir apprendre à négocier. Parce que c'est fini, maintenant, vous pourrez pas fabriquer votre mini Cambodge à échelle de l'usine, etc. Il va falloir apprendre à discuter, etc. Et ça, c'est pas des choses qui vont avec l'ADN de base de votre formation. Si vous étudiez les lettres, comme vous êtes quand même en général plus dans le flou artistique, si vous étudiez l'histoire, ce que j'ai fait, etc., bon, ben, tout se négocie un peu, quoi. Pourquoi Hamlet, il a fait ça? Bon, il a fait ça pour telle raison, mais ça pourrait être telle autre, etc. C'est pas 17 epsilon sur 33. Et vous rendez compte que les formations laissent des traces et qu'il faut les complexifier un peu si on veut arriver quelque part. Bien. Alors, l'autre domaine, évidemment, dans lequel il y a des connexions très fortes, c'est la ville idéale, l'architecture idéale, etc. Et ça, très tôt. C'est-à-dire la ville idéale de la Renaissance, elle a des liens avec les pensées, les premières grandes utopies urbaines, elles datent aussi de la Renaissance. Vous avez un monsieur qui s'appelle Campanella, qui imagine une société idéale dans une ville idéale qui s'appelle la Cité du Soleil, etc. Ici, c'est un monsieur qui s'appelle Perret, qui imagine aussi, fait un traité d'architecture, mais qui est un traité de la société idéale à la Renaissance. Alors, les fourriéristes vont, eux, par exemple, partir de l'idée que l'avenir, eh ben, on va éclater la société, plus de villes traditionnelles, mais des grands villages pacifiques dans lesquels vous trouvez toutes les activités et un peu somptueuses, une espèce de Versailles pour le peuple, etc. Alors, c'est pas complètement idiot comme idée. C'est que Versailles a été probablement le premier HLM de luxe de l'histoire. C'est qu'il faut vous imaginer que Versailles, vous aviez des milliers de personnes qui vivaient dans un seul bâtiment. C'est pour ça que Versailles a beaucoup frappé les utopistes, parce qu'en fait, il y avait des côtés bizarres de voir toute cette série de gens, des domestiques au roi, qui vivaient dans un même bâtiment, etc. Du coup, ils vont se proposer d'imaginer cette chose un peu bizarre qui est du logement collectif. Du coup, d'ailleurs, chez les fourriéristes, un exemple qui disent « Bon, il y a Versailles, mais alors plus proche que nous, il y a les paquebots. » Et les paquebots, ça, alors, parmi les réalisations de gens dans la mouvance fourriériste, vous avez un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Godin, qui va faire un espèce de mini phalanstère, qui va appeler le familistère, qui est en fait le logement des ouvriers de sa fabrique. Et c'est quelqu'un qui fabrique des poêles de fonte. Et le familistère de Godin fonctionnera jusqu'après la Seconde Guerre mondiale avec des logements ouvriers. Donc c'est un peu moins somptueux. Vous avez ici le familistère et là l'usine. Et ça va quand même pas mal marquer les choses. Mais je parlais de paquebot. Chez qui vous allez retrouver le paquebot? Par exemple, chez Le Corbusier. L'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier, c'est en fait un immeuble qui se veut un paquebot de la modernité, avec dans l'idée qu'on peut vivre tous ensemble dans du collectif et vivre somptueusement dans du collectif. Alors, du coup, les utopistes, on les trouvera aussi parmi les premiers théoriciens de la ville en réseau. Quand je vous ai parlé de la ville d'Haussmann, j'ai oublié de vous dire, mais ça c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé aux utopies, c'est qu'en fait, avant la modernisation haussmannienne, 20 ans avant, les utopistes à Paris dessinent finalement le projet de ce que serait une ville en réseau. Et en fait, les ingénieurs d'Haussmann, c'est les héritiers, les Saint-Simoniens ont été très très nombreux dans le corps des ponts et chaussées, et c'est les héritiers un peu de ces idées-là. Alors, ce qui est compliqué là aussi, c'est que des fois, vous pouvez vous dire tout ça, c'est quand même des calembredaines bizarres, mais des fois, vous avez des trucs un peu surprenants. Vous savez qui c'est ce monsieur? C'est Paulin Talabot. Ça vous dit quelque chose? Bon, Paulin Talabot, ça a été un des très très grands capitalistes du 19e siècle, c'est le fondateur du Paris-Lyon-Marseille. Pour les Marseillais, c'est l'homme qui a rénové et modernisé le port de Marseille. Il a créé des lignes de paquebots et de cargo pour l'Algérie. Il s'est occupé du chemin de fer d'Algérien, des mines algériennes, des forêts de l'Atlas, toute une série de choses. Alors Paulin Talabot, Il est saint-simonien au départ, mais c'est un saint-simonien soft. Son petit frère, lui, est un saint-simonien enragé, mais lui, c'est un saint-simonien plutôt soft. Sauf qu'il est assez curieux, parmi les grandes obsessions des saint-simoniens un peu bizarres, c'est la réconciliation de l'Orient et de l'Occident, qui passe par l'idée que, finalement, alors c'est très sexiste comme époque, l'Orient est féminin, sensuel, etc. L'Occident est plus masculin, industriel, et qu'en fait, l'avenir, c'est de les réconcilier. Du coup, ils élaborent une espèce de théologie assez bizarre dans laquelle il y aura un pape et une papesse. Et donc, le pape doit être le chef du mouvement saint-simonien, et la papesse, ça doit être une femme orientale. Donc, ils partent en Orient aller chercher une papesse pour les saint-simoniens. Donc, vous voyez le genre d'aventure. Ils vont d'abord à Istanbul, on les fout en tôle. Ensuite, ils vont en Égypte. Alors, en Égypte, ils commencent à avoir des idées à côté de la papesse. Ils se disent, et si on creusait le canal de Suez? Et en fait, le canal de Suez, c'est une idée agitée par les saint-simoniens au départ. Ils vont créer l'école d'ingénieurs locale en Égypte. Et puis, etc. Alors, vous dites, quel est le lien avec Paulin Talabo? Paulin Talabo, si vous y réfléchissez, c'est exactement ce qu'il a fait en pratique. Il a créé, en fait, et dirigé le Havre Paris-Lyon-Marseille, qu'il a articulé avec l'Algérie, et en fait créé un système qui, à l'époque, est vu finalement comme un système qui enjambe l'Orient et l'Occident. C'est une espèce de système capitalistique qui joint les deux. Et en fait, le canal de Suez, c'était le même genre d'idée qu'avaient les saint-simoniens. Et vous rendez compte que finalement, entre les très grands entrepreneurs, les idées allumées, ça a parfois une postérité chez les grands entrepreneurs. Alors, du coup, jusqu'à quel point les urbanistes un peu visionnaires sont-ils des utopistes? Alors, il y en a qui le sont. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle Ebenezer Howard, dont vous n'avez jamais entendu parler, mais les cités-jardins, ça doit vous dire quelque chose. Les cités-jardins, c'est un concept qui est fondé, mettre les villes à la campagne, grosso modo, c'est un concept qui est fondé par M. Ebenezer Howard. Et Howard, quand on le lit, ça donne mal à la tête, c'est en général un bon signe que c'est un utopiste. Il est complètement utopiste, etc. C'est beaucoup moins... Alors, un autre gars sur lequel j'ai travaillé autrefois, qui s'appelle Buckminster Fuller, qui avait des idées assez étonnantes de... Bon, il avait cette idée assez surprenante de mettre Manhattan sous un grand dôme. Ensuite, il va imaginer des villes flottantes en temps ségrité. Enfin, je passe sur les détails. Type extrêmement influent dans les années 50-70 aux États-Unis. C'est un utopiste aussi. Qui d'ailleurs a des idées amusantes très tôt. Par exemple, supprimer totalement les systèmes d'éducation et remplacer ça par de l'éducation via la radio. Donc, des tas d'idées assez radicales pour l'époque, etc. Et avec un côté, d'ailleurs, il va avoir une influence énorme sur les communautés hippies. Ça, c'est un truc qui vous dit rien. C'est une des vues de Drop City, qui est une des grandes communautés hippies des fins des années 60 aux États-Unis, qui utilise des dômes géodésiques. Fuller, c'est l'inventeur du dôme géodésique. Alors, il y a d'autres architectes, Ledoux, qui imagine une ville idéale à la fin du 18e siècle. C'est probablement un faux utopiste. C'est plus un architecte qui flirte avec l'utopie qu'un utopiste réel. Bien. Inventer des mondes nouveaux, c'était la deuxième partie. Maintenant, venons-en à utopie, invention technique. Quel lien ça peut avoir, tout ça? Alors, première chose, je vous ai parlé de la Nouvelle Atlantide. Très tôt, l'utopie noue des liens avec la question des sciences et des techniques. Et c'est probablement quelque chose qui a à voir avec la trajectoire occidentale, probablement. Pourquoi ça? Et la Nouvelle Atlantide de Bacon, vous savez qu'on attribue parfois Francis Bacon, philosophe, père de la méthode expérimentale anglaise, etc. La Nouvelle Atlantide, c'est la première utopie d'un gouvernement par les sciences et les techniques. Bacon, grosso modo, imagine une île, l'Atlantide, gouverné non pas par des politiques classiques, mais par une académie des sciences, avec des ingénieurs, des savants, etc. Alors pourquoi ça? C'est que ça va de pair avec une autre idée, c'est que les sciences et les techniques, alors c'est très ingénieur, encore une fois, back to 17 epsilon sur 33, c'est objectif. Il n'y a pas à tergiverser, c'est la vérité. C'est que la devise d'Harvard, c'est veritas, la truth, la vérité, doit se substituer au mensonge de la politique telle qu'on la connaît ordinairement, etc., etc. Alors ça, c'est une première raison. Finalement, c'est lié à quoi? C'est lié à l'idée d'être crédible. Pour être crédible, il n'y a rien de tel que de dire « mon truc, c'est basé sur les sciences et les techniques ». Ce qui explique d'ailleurs des traces que vous allez trouver jusque chez Marx. La raison pour laquelle Marx dit « il y a eu le socialisme utopique avant moi, moi, c'est le socialisme scientifique ». Parce qu'attention, ce dont je vous parle, ça a la même certitude que les sciences. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison... Alors évidemment, ça a des liens, tout ça. Bacon est un des protagonistes de ce qu'on appelle la révolution scientifique du XVIIe, Galilée, tout ça. C'est la même époque, etc. Mais l'utopie a besoin aussi, alors là, peut-être plus des techniques que des sciences, pour une autre raison, qui est finalement le fait de donner chair, de donner corps, de permettre d'imaginer un monde très différent. Je ne sais pas si j'avais déjà noté dans Star Wars le rôle du sabre laser. Hein? Star Wars. Zoom. Eh ben mine de rien. Bon, vous n'en avez pas beaucoup vu des vrais sabres laser. Il y a tous les faux sabres laser, etc. Mais mine de rien, imaginez-vous Star Wars sans sabre laser, sans gadget, etc., et c'est moins crédible. Pourquoi? Parce que la technologie, les gizmos en tout genre, etc., comment rendre une société crédible? Ben, vous imaginez des trucs qui vont l'enraciner dans un quotidien, mais un quotidien qui paraît un peu fantasmatique au départ, mais on s'y habitue très vite. Et en fait, la science-fiction va hériter de ça, de l'utopie, qui se sert très tôt de l'invention pour stabiliser ses récits sur un monde un peu différent, alternatif, etc., etc. Quelque chose d'important à comprendre, parce que c'est en même temps un peu contradictoire. C'est que l'utopie a tendance souvent à vouloir vous annoncer la fin de l'histoire. Pourquoi la fin de l'histoire? Ça aussi, c'est un concept qu'on retrouve chez les socialistes, chez Marx, etc. Parce qu'une fois qu'on aura atteint la société parfaite, ben, il n'y aura plus d'histoire. Parce que l'histoire, c'est un signe de l'imperfection des sociétés. Donc tout, désormais, va se reproduire à l'identique, etc., etc. Ce qui fait d'ailleurs qu'au moment où le communisme s'est effondré, vous avez un gars d'Harvard, d'ailleurs Fukuyama, qui a écrit ce bouquin sur la fin de l'histoire. Parce que le capitalisme, désormais, allait être le régime définitif de l'humanité. Vous voyez ? Et après ça, on dit que le capitalisme n'a pas des racines utopiques. Alors du coup, les inventions, c'est un peu bizarre, parce que si on peut encore inventer... En même temps, c'est la fin de l'histoire, ça paraît un peu étrange. Mais ça fait partie des contradictions de l'utopie que d'accueillir les deux, la fin de l'histoire, en même temps plein d'inventions. Bien. Alors, des inventions, par exemple, fin du 19e siècle, le téléphonoscope, je vous ai déjà montré ça, c'est l'ancêtre de Skype, sauf qu'il n'a jamais existé. Et là, vous avez donc cette famille anglaise. C'est vraiment quasiment des trucs que vous voyez aujourd'hui. C'est une famille anglaise de la fin du 19e siècle qui téléphonoscope avec les enfants qui sont dans une colonie en Afrique. Et la légende dit d'ailleurs, Pater Familias, Béatrice, come closer, I want to whisper. So, Béatrice, yes, papa. Who's that charming young lady playing on Charlie's side? Et puis elle vient d'arriver dans... Vous voyez le papa qui s'inquiète de savoir qu'est-ce que son petit-fils a une nouvelle girlfriend, etc., etc. C'est quasiment Skype. Bien. Et vous vous rendez compte que, bon, bah, y a... faire un récit d'anticipation, vous avez des téléphonoscopes. Bizarrement, ça n'existe pas, mais ça rend réel le truc, comme le sabre laser. Alors du coup, l'utopie accorde une place à l'invention. Maintenant, ce qui est des fois troublant, c'est que vous avez des inventeurs qui sont de sacrés utopistes et même des gens parfois très, très bizarres. Par exemple, ce monsieur Gillette, dont vous avez tous entendu parler, l'inventeur de la lame de rasoir, merci Gillette, etc., que tous les messieurs, à partir d'un certain moment, doivent abandonner le rasoir électrique, qui est toujours un peu un moment difficile, pour commencer à s'écorcher le visage le matin. Bon, ça, sur la gauche, vous avez l'invention de Gillette. Alors, Gillette, il avait par ailleurs des idées assez bizarres. Vous pouvez demander ce que c'était sur la droite. C'est une proposition de réorganisation de l'Amérique par Gillette, qui consiste, il a beaucoup cru à cette idée, regrouper toute la population nord-américaine dans une seule ville qui s'appelle Metropolis. Il manque plus que Batman, ou enfin non, pas Batman, ça serait plutôt Superman. Et puis, vous voyez, avec alors l'énergie, bah, très simple, pourquoi là? C'est parce qu'il y a les chutes du Niagara, source électrique, et puis là, vous voyez, des tours, toutes semblables, vitrées et tout, avec des appartements très spacieux, super sympa. Il n'a pas vraiment réussi à convaincre les gens, mais vous pouvez quand même vous demander comment fonctionnait son cerveau. Et du coup, le comment fonctionne le cerveau d'un inventeur est toujours une question intéressante. Alors, dans le genre, plus curieux, parce que Gillette, bon, on pouvait dire, il y a une totale déconnexion. Le jour, il fait des lames de rasoir. La nuit, il rêve de Metropolis. Ça n'a aucun rapport. On a tous, des fois, des projets bizarres. Mais alors, Diesel, ça, c'est un cas beaucoup plus troublant. Parce que Diesel, c'est un vrai utopiste. C'est un ingénieur allemand qui est ce qu'on appelle solidariste à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il pense que la technologie doit cesser de séparer les hommes et doit les rassembler, les regrouper, doit leur permettre de vivre une vie familiale plus harmonieuse. Donc Diesel, c'est un fan de ce qu'on appelle à l'époque le petit moteur. Le petit moteur, c'est le grand rêve de la fin du 19e siècle des utopistes technologues, qui est en fait de faire éclater la manufacture, qui déshumanise, qui, etc., le truc dont s'occupe Taylor, et de ramener le travail à la maison avec des petits moteurs qui permettent une production familiale. Vous voyez, là aussi, on n'est pas très loin de certains thèmes de l'écologie aujourd'hui. Du coup, Diesel, l'unique raison pour laquelle il s'intéresse aux très hautes pressions, et etc., c'est en fait pour faire des petits moteurs familiaux. Manque de peau, il terminera en faisant des moteurs pour sous-marins, bus et assimilés. Mais c'est une idée qu'elle a foirée. Mais en fait, au départ, c'était complètement lié à ces utopies sociales. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a des relations très très bizarres entre la technologie et l'utopie. Alors, il y a d'autres cas. Par exemple, l'Internet aurait probablement pas vu le jour sous la forme qu'on lui connaît s'il n'y avait pas eu en même temps, parce que l'ARPANET, ça c'est le schéma de l'ARPANET qui est l'ancêtre de l'Internet. Vous n'avez pas eu droit à un cours sur l'histoire de l'Internet, je peux le faire aussi, mais on est au début des années 60, fin des années 60, début des années 70, l'ARPANET, c'est les premiers nœuds. Les militaires à l'époque, leur problème, c'est pas du tout un problème de réseau d'ordinateurs classiques, c'est de partager du temps de calcul à l'époque où les ordinateurs sont très chers. Comme les militaires, c'est eux qui payent les ordinateurs, pour les labos qui font de la recherche pour l'armée, ils se disent « on va les mettre en réseau » pour qu'on puisse partager le temps de calcul. Et puis, vous avez ces scientifiques un peu geeks, comme on dit aujourd'hui, vous savez, les mecs dans les films pour ados qui se passent en high school, ils sont toujours dans le club de geeks, etc. Croyez-moi, je suis un grand spécialiste du film pour ados. Vous avez ces mecs-là qui se disent, en fait, ça serait marrant si on communiquait avec ça. Et donc, le truc est tellement merdique qu'ils commencent par inventer l'email pour s'échanger des trucs, parce qu'il faut à l'époque à peu près 6 mois homme pour mettre une machine sur l'ARPANET. Donc vous voyez le genre de boulot, c'est très compliqué, très long, etc. Donc en fait, ils inventent ça. Pourquoi ? Parce que depuis le début du XXe siècle, l'idée du réseau de communication universel, il est dans l'air. Le télégraphe l'a pas satisfait, le téléphone l'a pas satisfait, un gars qui s'appelle Tesla a eu l'idée d'un réseau mondial de télécommunications sans fil, et c'est la tour, la fameuse tour de Tesla, il avait imaginé d'en mettre partout sur la planète pour pouvoir radiodiffuser dans tous les sens, une espèce d'Internet des ondes Maxwell, et bon, ça va pas marcher, mais c'est un truc qui est dans l'air. Et vous vous rendez compte qu'en fait, l'Internet, il y a une partie de ce truc-là qui vient quand même d'une espèce de terreau d'idées utopiques qui ont une histoire assez longue. Si on veut essayer de comprendre un peu plus cette histoire, c'est peut-être là maintenant qu'il faut un peu parler de l'imaginaire. C'est qu'en fait, tout ça, ça tourne quand même autour du fait que on n'a pas que des pensées rationnelles dans la tête, on a des tas d'images associées parfois à des désirs, à des émotions, etc., et qu'en fait, le raisonnement sous sa forme chimiquement pure, c'est qu'une petite partie émergée d'un iceberg de choses beaucoup plus floues beaucoup plus indistinctes, etc. Alors l'imaginaire, ça commence avec des images. Si vous êtes américain, si on vous projette une image du drapeau flottant comme ça sur un fond d'azur, vous pensez à la patrie, au dévouement. Il y a toute une série de chaînes d'émotions, de significations, etc., qui sont greffées sur cette image. Ensuite, vous vous rendez compte que ce qu'on a dans la tête souvent, c'est des flux d'images. Si vous êtes un Américain plutôt de droite, mais pas seulement, eh ben, vous allez penser aux soldats, aux drapeaux, à l'honneur, etc., etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ce qu'on a dans la tête, parfois, c'est des chaînes d'images qui se répondent les unes les autres et avec qui se mélangent à des éléments plus verbaux, etc., etc. Alors, là, pourquoi je vous montre le drapeau? Parce qu'on pourrait dire qu'il y a un éminent anthropologue américain qui a dit finalement, les nations, qu'est-ce que c'est? C'est des communautés imaginaires. L'école des ponts, à la limite, vous pouvez savoir ce que ça veut dire d'être élève de l'école des ponts. Et bon, vous êtes censés être tous là, d'ailleurs, normalement, chercher l'erreur. Mais bon, admettons qu'il y en ait quand même une partie là. Vous pouvez savoir ce que vous êtes. Une nation, c'est quasiment impossible. En fait, une nation, vous êtes nourri d'images, le drapeau, de symboles, d'émotions que vous avez partagées. Par exemple, bon, qui a eu Babar dans son enfance? Bon, ben vous avez tous babarisé à un moment. Ça fait partie de l'identité française. Lire Babar aux États-Unis, c'est un signe de distinction bourgeois très évident, Babar. Mais c'est pas le tout venant de l'éducation américaine. Sesame Street, vous savez, l'émission avec les petits monstres pelucheux, Sesame Street, c'est par contre beaucoup plus une émotion générationnelle équivalente de Babar. Et vous vous rendez compte qu'en fait, beaucoup de choses dans ce qui nous fait agir, etc., sont liées à l'imagination et à l'imaginaire. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, en fait, bon, prenez la France, par exemple, ben, les grèves, aujourd'hui, eh ben, elles sont liées à un imaginaire. Une des raisons, quand même, pour lesquelles, au cas où ça vous a échappé, on n'a pas de service minimum un peu musclé, c'est comme le droit de chasse, etc., ça fait partie d'un imaginaire de la grève qui est très français et qui est enraciné dans des images héroïques. C'est des images héroïques, mais qu'on a eues en même temps que l'éducation dans le primaire, dans le secondaire, etc., etc. Et de même que ça, c'est une image que vous avez tous vue à un moment ou à un autre, la liberté guidant le peuple. C'est un machin profondément, cette espèce de bonne femme dépoitraillée au milieu du bordel, etc. Franchement, ça, c'est pas du tout intéressant pour un Américain. Il n'a pas du tout cette vision-là de la patrie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, la France, c'est profondément une figure féminine. L'Amérique, c'est Uncle Sam. C'est une figure plutôt masculine. Et vous vous rendez compte qu'en fait, les nations ont des tas de choses, etc. Alors, les techniques, ça a des liens avec l'imaginaire. Un exemple que je donne souvent, c'est les phares, parce qu'il se trouve que j'ai eu mon premier thésard, il travaillait sur les phares, et il avait découvert un truc assez marrant, c'est que pendant très longtemps, le phare, c'est une tour dans l'eau. Ce qui paraît clair. Et en fait, il montre très très bien qu'à partir du 19e, et de ce monsieur qui s'appelle Fresnel, on va commencer à penser les phares différemment, et on va en faire un truc très bizarre, on va en faire les éléments d'un réseau. Un réseau de lumière. Et du coup, on va comparer les phares très souvent aux étoiles du ciel. C'est des étoiles sur la Terre qui guident les navigateurs comme les étoiles anciennes guidaient, comme les étoiles du ciel guidaient les navigateurs de l'Antiquité, donc, etc. Et en fait, les raisons, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est en partie de l'imaginaire. Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que dans l'invention, il y a un aspect imaginatif indéniable et qui se corrèle à l'idée d'inventer un monde différent. Un inventeur, c'est quelqu'un qui est capable d'imaginer que le monde puisse être très différent, mais à travers un dispositif technique. Et finalement, Edison, ça c'est Edison avec sur le tard, mais Edison, c'est un espèce de visionnaire qui imagine que le monde puisse être électrique. Ce qui n'est pas du tout, lorsqu'Edison prend le problème de l'électricité, etc., pas du tout un truc qui est dans l'air du temps. Finalement, l'invention, ça procède, c'est quelque chose qui a besoin de l'imaginaire et même d'une petite dose d'utopie pour subsister. C'est d'ailleurs le génie, finalement, des grands inventeurs, qui peuvent être très bien, d'ailleurs, des inventeurs qui inventent rien. Steve Jobs, il y a toujours des postes comme quoi il n'a rien inventé. Non, il n'a rien inventé, sauf il a inventé la possibilité d'un monde différent dans lequel il y aurait tous ces gadgets, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, l'invention, ça cristallise des choses qui ont des rapports avec ce désir d'un univers différent. Il y a une autre chose aussi qui, dans laquelle l'utopie et l'imaginaire servent, qui est la chose suivante. C'est que l'utopie et l'imaginaire, ça c'est du Jérôme Bosch, si vous regardez, ça permet à des choses extrêmement contradictoires de cohabiter. Je sais, bon, vous n'avez probablement pas encore fait beaucoup de conceptions, mais pour ceux qui en feront, vous vous rendez compte, quand vous essayez d'imaginer quelque chose qui soit vraiment nouveau, en général, il y a un moment où vous essayez d'imaginer un truc contradictoire. Et souvent, les grandes inventions, prenez par exemple même le, pour revenir à Steve Jobs, imaginez un téléphone qui soit en même temps un iPhone, un media center, etc. C'était un peu contradictoire. Et l'imagination, c'est quelque chose qui permet à des choses extrêmement, vous savez, on vous dit souvent les rêves paradoxaux, etc. L'imagination, c'est quelque chose qui permet à des moments, des trucs extrêmement paradoxaux de cohabiter. En fait, vous n'arrivez pas à inventer quelque chose si vous restez purement logique. C'est d'ailleurs une des tristes vérités qui fait qu'en ingénierie, il y a un moment, si vous devez inventer quelque chose, il va falloir vous déprogrammer, parce que tout ce qu'on vous a appris à faire, pour l'instant, c'est à résoudre des problèmes. Résoudre les problèmes, c'est un truc déductif. Imaginer, c'est inductif, et l'induction, il y a des côtés sauts dans l'inconnu, où parfois il faut faire un saut dans l'inconnu presque absurde. Un exemple que je donne toujours, c'est, je sais pas s'il y en a qui ont lu le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Il y a une phrase célèbre qu'adorent citer les architectes. Architecte, deux points, oublie toujours les escaliers. Mais, il y a une raison, c'est vrai d'ailleurs que vous pouvez oublier les escaliers des fois quand vous faites un projet. Pour une raison simple, c'est quand vous faites un projet, vous partez de trucs tellement contradictoires qu'à un endroit, ça rentre pas dans l'espace à trois dimensions. Mais il faut être capable d'aller habiter ce moment contradictoire si vous voulez ensuite arriver à quelque chose de neuf. En d'autres termes, il n'y a pas de nouveauté sans une phase paradoxale, quasiment de rêve éveillé paradoxal. Et c'est là où l'utopie et l'imagination jouent aussi un rôle clé, ce que je me fais comprendre. Du coup, je dirais par rapport à votre admirable formation, c'est aussi pour ça qu'il y a si peu d'élèves des grandes écoles qui sont vraiment des gens créatifs en général, c'est qu'on ne vous a pas programmé pour ça. Il va vous falloir, en quelque sorte, vous déprogrammer un peu pour finalement être capable d'être un peu absurde par moment. Et c'est important, l'absurdité. Prenez par exemple quand même, bon, désolé de cet aspect très... Mais prenez les grandes histoires d'amour. Il y a toujours un espèce de moment absurde où vous dites « je ne devrais pas être avec cette personne », etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, même les relations humaines, les relations souvent les plus intenses et les plus intéressantes, elles, si vous n'avez pas fait un saut quasiment dans l'absurde, ça ne se passe pas. Sinon, ben, grosso modo, vous sélectionnez vos gens par ordinateur en fonction des affinités. Il aime le foot, j'aime le foot. Il aime Velázquez, j'aime Velázquez. En fait, ce qui est intéressant, c'est... Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, vous rendez compte que pour inventer même cette chose nouvelle qui est une relation qui n'était pas inscrite complètement dans la logique de ce que vous êtes censé être, etc., eh ben, il faut cette espèce de saut dans l'absurde. Et l'utopie, ça sert aussi à ça. Et si l'impossible devenait possible? Et si c'est ce truc complètement chimérique dans lequel une racine d'arbre se transforme en coq d'œuf qui se transforme en un personnage? Eh bien, c'était possible. Et c'est ça, finalement, un peu le rôle de l'imaginaire et dans tout ça. Alors, dernier point qui va relier l'utopie aux inventions. Alors ça, c'est un petit peu plus sophistiqué, mais ce n'est pas très sophistiqué quand même. L'utopie, un de ses grands problèmes, c'est de vous faire croire en des choses imaginaires et improbables. Alors, les choses qui vous permettent de croire en des choses imaginaires et improbables, elles sont de deux natures. Il y a les sabres laser, j'en ai parlé. Mais vous avez aussi tous les médias. Si c'est écrit dans le journal, ça a peut-être des chances d'être vrai. Pourquoi ? Parce que les médias, c'est finalement les canaux d'information qui relient ce que vous savez à ce que vous ne savez pas. Et en fait, vous pouvez écrire maintenant une histoire des utopies, qui est une histoire des relations entre les utopies et les médias. Et je reviens à ce que je vous disais, c'est pas une coïncidence si More, en fait, son utopie, elle est contemporaine de l'invention de l'imprimerie. C'est qu'est-ce qu'explore More aussi? On pourrait dire que More, c'est le premier inventeur de la fake news massive. Fake news, alors comme c'est quand même un esprit un peu sophistiqué et tout, il n'est pas comme Trump, donc il dit « Hey, it's a fake news, utopia, nulle part, mais c'est une fake news ». Et en fait, il vous fait croire, entre guillemets, il vous montre même l'alphabet, la preuve que c'est... Il y a un alphabet, on peut l'imprimer. Et d'ailleurs, le livre est imprimé. Plus tard, mes Saint-Simoniens, fourriéristes, etc., eux, ils sont contemporains d'une autre mutation des médias, qui est en fait l'invention de la grande presse. Et la phalange, c'est pas un truc que lisent que les fourriéristes, c'est un truc de presse. Au 19e, on va découvrir le journal, tel qu'on le connaît, on va le connaître jusqu'à aujourd'hui. Les Saint-Simoniens et les fourriéristes, ils sont aussi très présents dans un autre type de médiation, qui est en fait l'exposition universelle, les grandes expositions universelles du 19e, comme celle de 1867 à Paris. C'est sur le Champ de Mars. C'est peu, les organisateurs, c'est des anciens utopistes qui en fait font rêver par d'autres moyens, par le catalogue des inventions du monde. Alors du coup, ça explique aussi une chose, c'est que pourquoi on est dans une phase dans laquelle il y a des renouveaux de l'utopie, parce que les médias sont en train de changer. Ça explique aussi un truc un peu troublant, c'est pourquoi Zuckerberg, il croit quand même partiellement au truc qu'il raconte. Et c'est ça le plus troublant. C'est-à-dire qu'il pense quand même vraiment que cette espèce d'idée de communication globale, c'est vachement bien, etc. Et vous retrouvez le côté entrepreneurial. C'est quelque part, vous pouvez pas être entrepreneur si vous imaginez pas un monde différent qui va être super. Et c'est pas uniquement du calcul cynique. Si Zuckerberg avait été que cynique, il aurait probablement pas fait Facebook. S'il était que cynique, il serait à ma place en train de faire des cours d'histoire sur Zuckerberg. C'est différent. Donc, vous rendez compte qu'en fait, le truc le plus profond qu'on m'ait jamais raconté sur les entrepreneurs, c'était justement un gars qui était un entrepreneur, qui avait fait fortune à 30 ans, et qui, du coup, allait suivre des cours d'histoire à Harvard. Vous avez des gens comme ça, des fois, il était multimillionnaire, il s'emmerdait, il avait vendu toutes ses boîtes, il allait suivre des cours d'histoire. Et une fois, comme ça, on parlait, puis il me dit, tu sais, la seule vérité à comprendre sur les entrepreneurs, c'est qu'un entrepreneur, c'est un gars qui pense que ça va s'arranger. Parce que si vous voulez foutre une tonne de fric sur une idée qu'elle pourrait être foireuse, si vous êtes pessimiste, vous le faites pas. Donc vous devenez prof d'université. Et en fait, c'est aussi les racines de la liaison avec l'utopie. C'est que quelque part, faut penser que ça va marcher. Bon, aujourd'hui, si vous n'aurez pas échappé, on va s'arrêter dans 5 minutes. Et s'il y en a qui ont des questions, comme de toute façon, c'est la dernière séance, profitez-en. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une phase assez intéressante. L'une des raisons pour lesquelles je fais ce cours sur l'utopie, c'est pas parce que j'ai travaillé tant d'années sur l'utopie, c'est parce que je pense que l'utopie, ça renaît à des moments clés. C'est qu'il vous a pas échappé que le monde que nous a légué l'industrialisation, etc., il est en train de craquer de toutes parts. Pour des différentes raisons. L'urgence climatique en étant une, mais c'est pas la seule. Et du coup, finalement, il y a de la renaissance de mouvements. Les zadistes, vous pouvez me croire, je suis pas franchement le genre à aller camper à Notre-Dame-des-Landes ou autre. Hein. D'abord, l'armée m'a durablement vacciné du camping. Donc vraiment, l'idée même de passer la nuit sous une tente est parfaitement haïssable pour moi. Sauf si c'est une tente Hermès, dans le cadre d'un voyage d'études financé par Cartier. Mais à part ça, franchement, il faudrait me payer cher. Donc j'ai pas de sympathie particulière pour les zadistes. Mais dans les mouvements actuels, il y a des aspects utopiques qu'on peut pas nier et qui pose des vraies questions. Et je dirais, il y a un renouveau quand même de ces courants-là. Il y a encore 10 ans, ça aurait été totalement has-been d'aller faire du camping un peu sauvage, malpropre, etc. Aujourd'hui, eh ben, il y a quelque chose. Il y a les gilets jaunes, là aussi, croyez-moi, ma sympathie pour le gilet jaune est relativement réduite, mais aller camper sur les ronds-points, ça témoigne d'un désir. Et d'ailleurs, une des choses que tout le monde a dit, finalement, les gens étaient contents de se retrouver autour du rond-point, etc. Et vous vous rendez compte que quelque chose est en train de travailler la société en direction, finalement, d'actions collectives, en direction, finalement, de lieux alternatifs, etc., etc. Je dirais, le gilet jaune, peut-être qu'il était, de ce point de vue, plus authentique que sa version « je vais casser les vitrines des boutiques », etc. Mais il y a clairement dans la société aujourd'hui des ferments de désir d'autre chose que ce qu'on connaît. Alors, il y a aussi dans le capitalisme des aspects très singuliers. Je vous ai déjà parlé de Kurzweil, ce gars qui est quand même conseiller d'Alphabet et qui pense qu'on va, d'ici quelques années, s'uploader dans les machines et devenir immortel. Soit dit en passant, la Silicon Valley, je vous l'avais déjà dit, est obsédée par l'idée d'immortalité, de post-humain, etc. Je dirais aux zadistes, finalement, des anticapitalistes répondent les rêves de post-humanisme que vous avez dans des fractions du capitalisme mondial. Du genre, je suis tellement beau et intelligent, pourquoi devrais-je mourir? Et du coup, avec l'idée, alors qu'ils sont des utopies certainement effrayantes, mais qui sont très présentes aujourd'hui dans des segments entiers, des have, à l'exception des have not. Prenez tout le côté collaboration, participation. Ça, c'est OpenStreetMap. Je crois que je ne sais plus si c'est au Salvador ou au Nicaragua. Toutes ces idées que vous avez aussi derrière les Fab Labs, qui sont extrêmement puissantes aujourd'hui. Toutes ces idées-là sont très, très puissantes. Alors, avec évidemment des trucs contradictoires, c'est-à-dire ce que je disais sur la ville intelligente, vous avez ça, et puis vous avez le désir aussi, l'utopie complètement 1984 du contrôle vertical. Alors, dernier point, oui, alors, avec cette question de l'individu, qui à mon avis est une des questions centrales aujourd'hui, comment on peut réinventer, et ça je pense que c'est pas simple, comment peut-on réinventer du collectif à partir d'une société hyper individualiste? Et ça, c'est pas franchement gagné, et personne ne sait complètement. Alors, dernier point, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que c'est le gigantisme? Est-ce qu'on va sauver la planète à force d'utopie globale et gigantesque? Ça, c'était un projet de ferme éolienne à l'échelle de la mer du Nord. Et finalement, est-ce que le monde sera sauvé avec des utopies grandioses, etc.? Ou est-ce que le monde sera sauvé par l'agriculture urbaine? Je caricature. Mais derrière ça, il y a une vraie question. C'est-à-dire, finalement, si on veut, le futur, c'est quoi? Est-ce que le futur, c'est plus de technologie? Est-ce que c'est moins de technologie? Est-ce que c'est du high-tech, du low-tech, une combinaison des deux? Est-ce que c'est des trucs... Vous prenez la Chine. La Chine, très clairement, ils sont en train de... La Smart City, pour eux, c'est une espèce de projet un peu utopique de contrôle absolu. Alors, pour nous, c'est une contre-utopie. Pour les Chinois, c'est pas une contre-utopie. C'est l'idée de stabilisation sociale. C'est un peu plus complexe, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, toutes ces questions, finalement, comment réinventer un avenir différent? Je pense que vos générations, vous n'avez pas connu l'époque joyeuse du communisme. Du coup, vous n'avez pas connu, finalement, l'époque où il y avait encore une alternative. Vous savez, les gens passaient à l'Ouest ou, au contraire, trahissaient l'Ouest et se réfugiaient en URSS, donc il y avait encore un ailleurs. Même si l'ailleurs, chacun pensait que l'ailleurs de l'autre était un cauchemar, mais le fait qu'il y ait un ailleurs indiquait qu'il y avait une polarité, et donc il pouvait y avoir un avenir différent. C'est vrai que quand Fukuyama a écrit sur la fin de l'histoire, comme le capitalisme l'avait emporté partout, même en Chine, il semblait qu'il n'y ait plus d'ailleurs. Aujourd'hui, peut-être que ce qui se dessine, c'est le désir à nouveau d'un ailleurs, de quelque chose qui n'est pas comme ce qu'on a fait. Bon, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment où j'en ai. Ali, on a fini, on met en boîte. C'est bien, ça va rejoindre les archives de l'école.